What's up tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Daf et Max avec Maxime Banout
et Daphné Malbeth.
Un énorme merci à tout le monde, Daf. Merci à tous pour votre réaction pour notre premier épisode la semaine dernière. Vous avez été près de 1000 en tout à regarder ça. Écoutez, sur toutes les plateformes. D'ailleurs, mes excuses à tout le monde qui l'ont écouté sur YouTube. Ça a été la plateforme la plus utilisée. Puis ça vous a vexé un petit peu que je disais qu'il y avait juste mes parents un peu boomers qui avaient écouté ça. Moi, personnellement, je suis un petit peu flabbergasté, Daf.
Ben, honnêtement, je ne m'attendais pas à cette réaction-là, moi non plus. J'ai eu de la misère à répondre à tous les messages, bien que je me faisais un devoir de le faire parce que non seulement vous avez été incroyable, mais tu sais, vous avez vraiment embarqué aussi dans ce qu'était l'essence de Daf et Max. Puis j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça le fun de répondre avec tous les gifs du monde. Sincèrement, sachez que chaque gif a été réfléchi de façon très, très personnelle. Mais pour vrai, les gens qui ont écouté ça sur YouTube, en plus, je suis contente, coudon, d'avoir mis mon chandail des Bulls de Chicago parce que, Seigneur, mon Dieu, ben là, je ne savais pas qu'il fallait que quasiment je me fasse une mise en pli hein, pour faire ce show-là. Mais j'adore. Merci à tout le monde.
D'ailleurs, deux en deux pour les apparitions de Michael Jordan à cette émission. C'est encore un gag visuel pour ceux qui écoutent. C'est mon tour de porter Michael Jordan sur un T-shirt. Aujourd'hui, à l'émission DAF, on n'a pas le choix. On revient sur le dossier chaud de la semaine dans les médias sportifs québécois. C'est le fun parce que je suis pas mal sûr que ni toi ni moi, DAF, avons vraiment étalé le fond de notre pensée là-dessus. Puis je pense qu'un peu comme Obi-Wan Kenobi puis Anakin Skywalker, on a peut-être le même fond sur notre idée, mais on sera pas nécessairement d'accord sur le sujet, même si on est tous les deux des milléniaux.
Pour vrai, ça, pas que c'est une première. Des fois, je pense que les gens, quand ils entendent 109, quand on est ensemble, des fois, ils se disent, ben là, tu sais, vous avez les mêmes opinions. Sachez que ce n'est pas planifié d'avance. Hein? On ne sait pas c'est quoi l'opinion de l'autre. Mais là, je suis contente que ça peut-être chauffe un peu aujourd'hui. Puis hier même, je te textais hors de notre émission, puis tu me disais, garde-toi du jus, mais c'est vraiment un sujet qui soulève les passions, Max. Et j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette discussion-là. J'ai hâte de voir où est-ce que tu vas m'amener.
On fait déjà un premier changement aussi à l'émission DAF. Après notre discussion de la semaine avec notre invité de la semaine, d'ailleurs, on va laisser notre premier invité être celui qui slide dans nos DM. Je vais te laisser le présenter dans quelques instants. Le segment, justement, dans nos DM avec les messages des auditeurs va venir après l'invité de la semaine. On s'est rendu compte que d'aller plus rapidement à l'invité de la semaine, c'est peut-être un peu plus intéressant. Je te laisse inviter, présenter, Daf, justement, c'est qui slide dans nos DM cette semaine?
Je pense que tu vas être content, Max, parce que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup. C'est Marc-André Perrault de TVA Sport. On le connaît pour Marc-André Perrault tel qu'il est. Mais ce gars-là, what you see is what you get. Autant à l'écran qu'en dehors, c'est le gars, c'est un gars de la BTB, sans prétention, qui arrive et qui couvre le Canadien de façon assez, c'est sa façon de le faire. Je veux dire, il y a personne d'autre que Marc-André Perrault qui arrive devant Tipol Biron, qui signe son nouveau contrat puis qui lui dit, tu sais, t'es-tu allé célébrer quelque part, je sais pas, là, moi, manger du Kentucky. Puis tu sais, il a même pas dit PFK, il a dit du Kentucky. J'ai jamais éclaté de rire comme ça de toute ma vie. Travailler avec Marc-André Perrault, c'est souvent de voir se mordre l'intérieur des joues. Parce que les questions qu'il pose en scrum, des fois, tu te dis, il vient-tu vraiment dire ça? Mais d'un autre côté, ça dédramatise la chose. Parce que oui, le stress de couvrir le Canadien, c'est quelque chose de gros. Moi, je me rappelle d'avoir mis les pieds dans le vestiaire du Canadien puis d'être tellement stressé puis impressionné de ça. Mais lui, il arrive puis il détend l'atmosphère. Puis je pense que c'est quelque chose qui amène un certain équilibre aussi au sein de notre gang de médias qui est dans le vestiaire parce qu'à un moment donné, c'est du hockey puis on n'en meurt pas. Fait que vraiment, Marc-André Perrault, j'ai hâte de voir, tu sais, de vous le présenter sous toutes ses couleurs là aujourd'hui.
Ouais. Parce que c'en est un personnage coloré, c'en est un personnage qu'on aime, et moi le premier, mon Dieu que j'aime ça, Marc-André Perrault qui slide dans nos DM, je vais faire l'envie de plusieurs de tous sexes au Québec aujourd'hui. Sans plus tarder, juste avant de commencer l'émission, si c'est pas déjà fait, suivez-nous sur notre chaîne YouTube quelque part là-dessus. Vous êtes déjà plusieurs à le faire, c'est super. Encouragez-nous de cette façon-là. Allez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcasts. On est également disponible sur Google Podcasts. Sur Apple Podcasts, vous pouvez noter, allez donner ça 5 étoiles. Hein. On est un hôtel luxueux ici. Vous pouvez le voir dans nos backgrounds pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Nous sommes un hôtel luxueux. Nous méritons 5 étoiles. Alors, si c'est pas déjà fait, nous vous invitons à le faire. Daf, sans plus parler, allons chicaner. Bon, Daf, aïe, aïe, aïe. DM, des milléniaux. Oui, on a peut-être tous les deux en bas de 50 ans, mais on va parler de ce dossier-là. Pour la première fois en 112 ans d'histoire cette semaine, c'était lundi soir face aux Oilers d'Edmonton. Le Canadien de Montréal a disputé un match sans aucun joueur québécois, du moins aucun joueur né au Québec dans sa formation. Et évidemment, ça a fait passablement jaser, des chroniques un peu partout, des gens qui disent qu'il faut dédramatiser ça, d'arrêter de vivre dans le passé. Bref, ça fait jaser, c'est normal. C'est la première fois, comme on a dit, en 112 ans que ça arrive. Ça aurait été un peu spécial. En fait, moi, j'aurais trouvé ça plus spécial que ça passe carrément dans le beurre. On en a entendu de tous les côtés, puis c'est normal, ça polarise. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Jeune millénial de quoi? 25, 26 ans? Je me souviens jamais de ton âge.
Hey, je suis rendue à 27 ans, Max. Je viens tout juste de frapper le 27 et ça fait mal.
C'est vrai, c'est vrai. J'oublie tout le temps. On est juste 3 ans de différence. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est quoi ta réflexion là-dessus?
Ben, c'est parce que c'est un dossier qui est complexe. Que plusieurs couches, mon Dieu, ça fait juste 2 épisodes, puis déjà, on déblatère sur des sujets qui sont, tu sais, qui partent de tous les bords, tous les côtés, parce que j'ai souvent l'impression que dans ce dossier-là, on ne voit que cet aspect négatif-là, mais c'est beaucoup plus large que ça. Pour moi, à mon sens, c'est de... Il faudrait voir le problème de l'autre côté aussi. Parce que je suis pas d'accord pour dire, puis j'ai entendu ces discours-là cette semaine, puis ça m'a vraiment désolée de dire, ben le Canadien a repêché au 17e rang, on a repêché Nate The Grace, puis il y avait Philippe Danault qui était au 26e rang. Alors, pourquoi ne pas avoir... Ouais, rendu là, j'ai un petit peu de difficulté de dire que... repêché en première ronde à talent égal, OK, si le gars est repêché au 19e rang, mais si le gars est repêché 9 rangs plus tard, pour moi, ce serait d'être en erreur du côté du Canadien que de prioriser le Québécois d'abord, parce que on parle du premier rang du repêchage, puis il faut repêcher le meilleur joueur disponible. Regardez ce qu'on a fait avec Kotkaniemi. C'est une des années où on n'a pas repêché peut-être le meilleur joueur disponible, mais un joueur qu'on avait besoin, un joueur de centre, puis regardez les passions que ça soulève aujourd'hui. Ceci étant dit, pour moi, il faut voir le problème de l'autre côté. Est-ce que ce serait pas au hockey québécois plutôt que d'élever son jeu d'un cran en termes de développement? Parce que j'ai vraiment l'impression que les autres nations, les Européens, aux États-Unis, on a développé le programme de développement américain qui fonctionne à merveille et on le voit dans les dernières années, les merveilles que ça a donné. Les autres se sont ajustés et le Québec peut-être pas. Et là, ça, c'est encore un autre sujet encore plus délicat parce que Hockey Québec, qui a possédé le monopole, on va se le dire, du développement du hockey dans notre province, a eu le monopole, à mon sens, peut-être trop longtemps. On s'est peut-être assis sur nos lauriers en matière de développement. Puis après ça, il y a la LHPS qui est arrivée. Puis cette espèce de guéguerre-là entre les deux n'a pas servi non plus à développer nos jeunes, dans le sens où il fallait toujours choisir le camp dans lequel on allait s'inscrire, fait que Hockey Québec ou la LHPS. Puis après ça, ben c'est pas de servir nos jeunes, de servir le développement du hockey que d'entrer dans une guerre avec deux ligues qui, à mon sens, la LHPS a contribué à ce que Hockey Québec élève son jeu d'un cran. Fait que pour moi, il y a ça. Tu sais, quand tu regardes le top 4 chez les gardiens de but, avec le plus grand nombre de victoires, c'est beau de voir que c'est dominé par Brodeur, Patrick Roy, Marc-André Fleury, Roberto Luongo. Mais regardons cette année, Max. Seulement deux Québécois qui ont été en poste de gardien régulier dans toute la Ligue nationale. Pour moi, ça, c'est criant. Et il est là, le débat. C'est pas de dire est-ce qu'on devrait repêcher un joueur québécois à tout prix, 9 ans plus tard, qui serait sorti peut-être 9 ans plus tard au premier rang du repêchage. C'est de dire pourquoi il n'y a aucun Québécois qui se retrouve dans le top 10. T'sais, on a eu Alexis Lafrenière, mais ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de Québécois repêchés dans le top 10 de la Ligue nationale? Fait que pour moi, le débat, il est là, d'abord et avant tout. Je pense qu'il faut se regarder dans le miroir. Puis je comprends après ça que les gens soient déçus qu'en 6e ou 7e ronde, comme l'année passée, là, on ne priorise pas peut-être d'aller chercher un Québécois. Puis c'est là que la nuance que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, je vous comprends, je vous entends. Je pense que cette semaine aussi, le débat, c'était un peu un faux débat parce que c'est pas qu'on n'avait pas envie d'avoir des Québécois, c'est pas parce qu'on n'avait pas essayé, c'est parce que là, on a des joueurs blessés. Puis tu sais, j'entendais de Régent Tremblay parler hier au 91.9, puis ça m'a fait rire parce qu'on dirait qu'il se contradisait. Tu sais, il disait, tu sais, on doit aller chercher des Québécois, nanana, nanana. Puis après ça, il disait qu'avec le Rocket de Laval, on avait seulement des Québécois pour faire vendre des tickets à Laval. Mais c'est pas ça que tu es en train de me dire. C'est pas ça que tu es en train de me dire que tu veux qu'on mette des Québécois à tout prix, des Québécois qui ne perceront pas nécessairement la Ligue nationale pour prouver que, ah, dans l'organisation du Canadien, on est prêt à engager des Québécois. Le Régent veut quoi? Fait que c'est ça. Fait que, il y a beaucoup dans ce débat-là, beaucoup plus que simplement cette question-là de, ah, oh, il n'y a pas eu de joueurs québécois. Oui, mais il faut regarder en arrière. Puis je pense que le Canadien a quand même fait ses devoirs. Tu sais, il y a Raphaël Harvey-Pinard, il y a Joel Teasdale dans le club en bas. Des gars qui ont obtenu, qui n'étaient pas nécessairement repêchés. Joel Teasdale n'a jamais été repêché. Amené en contrat professionnel avec des gars comme Joël Bouchard. Puis ça aussi, il faut voir dans ton organigramme qui tu décides d'engager, qui va donner des contrats. Qui recrute les joueurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois? Est-ce que les Québécois ont beaucoup de pouvoir au sein de la brigade de recruteurs chez Canadiens? C'est vraiment tout ça qu'il faut regarder, tu sais. Mais Max, je suis curieuse de t'entendre parce que là, je déblatère.
Mais c'est correct, c'est un long sujet. Faut se laisser déblatérer l'un l'autre. Parce que tu le dis, c'est un sujet qui a plusieurs couches. Donc, tout est plus... du côté de regarder d'Hockey Québec puis du développement des joueurs bien avant qu'ils arrivent dans la Ligue nationale.
Ouais, ben okay. Oui, parce que je trouve que notre développement, puis tu sais, Simon Servant a amené un bon point, il a envoyé un tweet que je ne dirai pas parce qu'il l'a retiré, mais ce qu'il a dit après, c'était super aussi. Il disait « Faudrait mieux s'informer de la réalité du sport. Quand Gilles Courteau me dit de vive voix qu'il souhaite avoir la meilleure ligue, peu importe d'où les joueurs viennent, quand on voit qu'il n'y a eu qu'une dizaine de Québécois repêchés dans la LNH lors des dernières années, on a ça. » Il y a ça.
C'est un méchant bon point. Ben, je ne savais pas ça, c'est un méchant bon point.
Puis tu sais, c'est ça, c'est comme à talent égal, si l'Européen est beaucoup plus développé, si le Finlandais, le Suédois est beaucoup plus développé, ben prenons ce joueur-là. Puis moi, je voudrais pas que le Canadien devienne cette équipe-là qui repêche justement un gars qui serait peut-être sorti au 30e rang, ouais. Mais parce que cette pression-là qui va le repêcher au 16e rang, puis que ce gars-là se développera jamais comme un gars qu'on aurait pu repêcher. À talent égal, repêchons le joueur qu'on doit repêcher, surtout dans les premiers rangs. Mais je nuance en disant que 6e, 7e ronde, priorisons peut-être les Québécois parce que on sait jamais ce qui peut arriver, tu sais.
On est d'accord sur les premières rondes de repêchage. Bon, on a un premier point sur lequel on est d'accord. Ça part bien. On voulait chicaner, on ne chicanera pas là-dessus parce que moi, en partant dans la vie, je suis du type à regarder en arrière puis en me disant, pas en regrettant des choses. Il n'y a pas grand-chose que je regrette dans la vie parce que je trouve que le regret, ça ne sert à rien. C'est important de regarder en arrière pour corriger des choses qu'on ferait différemment. Mm-hmm. Mais après ça, de regarder en arrière puis de se dire, ben, on aurait dû faire ça, 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 puis ça, je trouve que ça vaut absolument rien. Ouais. Je trouve que bien souvent, c'est des faux débats. De repêcher strictement québécois tour pêchage, ça nous aurait donné Angelo Esposito puis David Perron au repêchage de 2007 au lieu de Max Pacioretty puis Ryan McDonough. Dans le cas de David Perron versus Max Pacioretty, tu regardes leurs statistiques en carrière, c'est presque équivalent, c'est correct. Mais après ça, Angelo Esposito n'a pas joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. De vouloir repêcher un Québécois, ça nous a donné Louis Leblanc en 2009. OK, fine, ça nous aurait peut-être donné Patrice Bergeron en 2003, mais de faire ça, tu sais, Patrice Bergeron, c'est un choix de deuxième tour. Tous les clubs ont passé par-dessus une fois. Je suis d'accord avec toi sur le fait d'en première, deuxième ronde, repêche le meilleur qui est là. Puis après ça, moi, je lisais cette semaine. Plus tôt cette semaine, j'ai lu tous les textes qui sont sortis là-dessus. J'ai lu Jean-Charles dans le Journal de Montréal. J'ai lu Alexandre Pratt. J'ai lu Martin Leclerc. Ouais. Philippe Quentin. Il y a tellement de couches. Avant de partir sur ma réflexion, je veux juste revenir sur une chose que tu as parlé. Ce que le commissaire Gilles Courteau a dit à Simon Servant. C'est ça que je comprends. Là, c'est à Simon Servant qui a dit ça, c'est pas à toi?
Non, exactement. C'était le tweet. Ça, okay, je lisais le tweet de Simon
c'est
Servant.
C'est ça. OK, non, c'est juste pour être sûr. Ça, par contre, moi, ça me choque d'entendre ça. C'est quoi le but de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? C'est-tu d'offrir un bon produit sur la glace puis de vendre des tickets ou c'est de développer le hockey québécois? Moi, je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est un circuit de développement et ça devrait être son objectif de développer les meilleurs joueurs québécois possibles. T'as parlé des Américains qui se sont incroyablement améliorés dans les dernières années. Mmh. Puis justement, éventuellement, je sais pas quand, probablement qu'à un moment donné, les États-Unis vont finir par devancer le Canada au hockey, simplement en raison du bassin de population et de la façon qu'ils développent le talent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un programme U18 chez les Américains d'élite qui sert strictement à développer des joueurs pour la Ligue nationale de hockey. Pendant ce temps, dans la LHJMQ, t'as des petites guéguerres, puis quand t'as certains joueurs, puis honnêtement, moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, exemple, Nathan MacKinnon. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était une tête enflée, ce gars-là, parce que lui, il avait décidé qu'il voulait jouer pour les Moussettes d'Halifax. À l'époque, c'était le Drakkar de Bécomo, son année de repêchage, qui aurait dû l'avoir. Et MacKinnon, il a fait « Non, moi, j'irai pas jouer à Bécomo. » Puis j'étais « Voyons, toi, tu te fais drafter dans le Q, t'as 15 ou 16 ans. » Moi, personnellement, DAF, là, la raison pourquoi je ne suis pas allé faire Jonquière en communication, c'est parce qu'à 17 ans, en sortant de l'école secondaire, moi, j'étais un late bloomer. Là. J'étais pas prêt à quitter papa et maman, puis aller à 5 heures de route, puis aller à Jonquière, puis vivre tout seul. Après mon secondaire, on demande de faire ça aux jeunes juniors majeurs. Ils peuvent se faire échanger. Il faut qu'ils fassent, tu sais, Alexandre Alain qui a lâché le hockey pour tenter une chance en médecine. C'est une exception, ce gars-là. C'est une exception. La priorité devrait être de développer les gars, puis pas de faire une mini-ligue nationale de hockey où tu te fais échanger, où tu es un employé quasiment à peine rémunéré.
Ouais, il y a tellement ça dans ce débat-là, Max. Puis il y a aussi, tu sais, ça a beaucoup changé. Je pense que, tu sais, il y a peut-être quelques années, tu sais, reculons de 10-15 ans peut-être. Tu sais, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Tu sais, là, j'entends beaucoup de parents de dire, ben là, regardons du côté des États-Unis au lieu de la GMQ parce que tu as peut-être plus de chances de te développer. Puis en plus, tu as la chance d'avoir un diplôme d'une université américaine, c'est pas rien que ça. Mm-hmm. Y a des parents qui ont de plus en plus de sous aussi pour faire ça. Puis c'est drôle que tu dises ça, Max, parce que moi aussi, la raison pour laquelle je suis pas allée en ATM à Jonquière, c'est parce que mes parents me disaient, c'est pas vrai qu'à tout juste 17 ans, on va t'envoyer vivre à Jonquière dans un appartement. T'es pas rendu là, ma petite fille. Fais un an à Montréal. Vois si t'as vraiment besoin d'aller là-bas. C'était ça aussi. Fait que, il y a les parents aussi qui sont protecteurs là-dedans. Puis j'y comprends, là. Tu sais, c'est quelque chose de savoir que ton enfant est de 15-16 ans. C'est jeune, là, Max. C'est extrêmement jeune.
Ah, c'est un enfant.
D'aller vivre à Bécomo, d'aller vivre à Halifax. T'as pas moyen, tu sais, en tant que parent, de te déplacer là à chaque fin de semaine. C'est quelque chose de donner aussi ton enfant dans les mains d'une famille d'accueil, bien que ces gens-là sont tellement, tu sais, bien intentionnés. C'est quelque chose, là, pour des parents de laisser partir leurs enfants comme ça. Puis j'y comprends en même temps, tu sais.
Ouais. C'est pas tout le monde qui est rendu là à cet âge-là. Moi, je l'étais pas. Il y en a qui le sont. Moi, je l'étais pas. Si on revient à la situation du Canada, Tu sais, je te le disais, j'ai lu un peu partout là, cette semaine pour me faire une tête là-dessus parce que, tu sais, à la base, je trouvais ça important. Tu sais, moi, je suis vraiment pas de ceux qui disent que c'est un débat qui est juste ramené par les boomers ou peu importe. Je suis pas de ceux qui disent, bah, on sait bien, c'est les journalistes franco qui brassent de la M. Et à chaque fois qu'un débat polarise autant, c'est parce qu'il y a un contexte socio-historique derrière ça, puis c'est important de le comprendre. Moi, personnellement, je me situe quelque part entre Alexandre Pratt et Martin Leclerc. Là. Pour ceux qui ont lu là-dessus, Alexandre Pratt, dans la presse, je vous invite à aller le lire, a déconstruit et répondu un peu aux principaux arguments qui disaient « je m'en fous ». Je m'en fous parce que, Il déconstruisait un peu chaque argument. Martin Leclerc, lui, qui connaît son dossier sur Hockey Québec, il est bien renseigné là-dessus. Ça fait des années qu'il travaille. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'il fait des articles là-dessus. Sur le site web de Radio-Canada, je vous invite à aller lire cet article de Martin Leclerc parce que, justement, lui, il est vraiment de ton côté. Tu sais, moi, ma conclusion, Daph, moi, je pense que les deux. Je pense que le Canadien, ça part de responsabilité. Je pense qu'à Hockey Québec aussi. Puis ma conclusion envers les deux est un peu la même. Les deux, c'est des Blockbuster et des Sears au lieu d'être des Nintendo. Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça dans pas long. Je vais commencer avec Hockey Québec. Martin Leclerc, comme je disais, connaît son dossier vraiment mieux que moi. Là. Sincèrement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez lire son article.
Ouais, c'est quoi, Max? En fait, je m'en veux pas, là, excuse-moi de t'interrompre juste 2 secondes.
Mais non,
en
vas-y.
Fait, j'ai lu le titre de Martin, puis je m'étais vraiment fait une tête en lisant tous les autres articles. Puis j'avais fait notre plan de converse en me disant, il faut pas que je lise Martin parce que je veux pas prendre ses propos parce que...
tu veux pas voler ses arguments?
Non, mais oui, pour de vrai, puis j'avais déjà ces arguments-là, même parce que c'est justement un gars que j'écoute à la radio très souvent, puis c'est vraiment lui qui m'a amené à cette réflexion-là, puis je me disais, je veux pas lire sa chronique parce que je veux pas avoir les mêmes mots que lui, mais évidemment que quand tu suis ces dossiers-là que Martin apporte à la radio année après année, c'est là que tu te rends compte qu'aussi, on a un travail de se regarder dans le miroir. Mais vas-y, je te laisse à tes Sears et voilà.
Moi, je l'ai vécu, évidemment, au début du 21e siècle, dans les années 2000. J'étais un jeune joueur de hockey qui jouait dans le deux lettres. Le hockey est passé au 20e... Ben, tous les sports au 20e siècle, c'est passé de... T'avais des joueurs de grand talent. T'en avais une coupe, des Gilbert Delorme de ce monde, qui s'entraînaient. T'avais Guy Lafleur qui, pour une raison hors norme, fumait entre les périodes puis était le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. C'est passé d'un sport où Wayne Gretzky dominait outrageusement justement parce qu'il était en avance sur tout le monde à un sport au 21e siècle où... C'est plus sophistiqué que jamais. Les 6e défenseurs de nos jours, tu les prends puis tu les transposes en 1972, ça serait d'excellents défenseurs. Tu as des systèmes défensifs incroyables. Bref, première erreur d'Hockey Québec, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. On prétend être aussi maniaque d'hockey que le sont les Américains au foot, right? Ben, au foot, l'Américain, là, dans la majorité des États, puis pas mal dans tous les États, être coach au secondaire, c'est une job. C'est une job dans une école, OK, ça peut être accompagné d'être, je sais pas moi, d'être intervenant, d'être pédagogue, d'être enseignant en éducation physique, peu importe, c'est une job. Ce sont des pédagogues qualifiés qui sont entraîneurs. Au hockey mineur au Québec, c'est des parents, la grande majorité du temps, qui coachent bénévolement. T'en as des très bons. T'en as qui le font par amour. T'en as des un peu plus ailés. T'en as qui le font parce que sont arrivés, puis une année dans le simple lettre, il y avait 3 clubs, puis il manquait de coach. Puis là, il y en a un qui avait dit, ben là, mon fils joue. OK, je vais à main. Je me suis retrouvé une fois dans cette situation-là. C'était incroyable. Je veux pas partir sur des anecdotes, là, mais pour te donner une idée, j'avais joué 2 lettres toute ma vie. J'arrive à Sherbrooke. Mon frère et moi, les deux, on décide, on est rendu au secondaire. On veut aussi jouer au foot. On veut continuer à faire du ski. On s'en va dans le simple lettre. Dans le simple lettre, t'es le seul goaler sur l'équipe, évidemment. Mon père m'a amené après une coupe de pratique. Mon père m'avait coaché toute ma vie. Mon père, c'est un hockey dad, mais tu sais, un bon hockey dad, là, vraiment, qui m'a partagé sa passion, qui m'a coaché par passion, mais qui n'était pas un fou qui voyait son fils se rendre dans la Ligue nationale de hockey. Mon père, respectueusement, est allé voir les coachs parce qu'il se rendait compte qu'il savait pas quoi me faire sur la glace. quand il y avait des drills juste pour les joueurs, t'allais voir, il disait, hey, ça vous dérange-tu si je pogne Max puis que je fais faire des exercices, là, tu sais. Mon père m'avait coaché dans le deux lettres avant ça pendant des années. Il avait appris. Mon père, c'est un attaquant, mais quand j'ai décidé que je goalais, ben, il a fait ses formations, il a lu là-dessus puis il était devenu très bon. Il s'est renseigné. Mais c'est pas donné à tout le monde de le faire. Mmh. Première erreur de Hockey Québec, on s'est jamais adapté à se dire, ben, peut-être qu'il faudrait commencer à créer des emplois, à créer des entraîneurs plus qualifiés à des plus bas niveaux. Deuxième erreur, ça aussi, Martin Leclerc en parle. Tout de suite, si tu fais le deux lettres dans la tombe, tu es catégorisé, tu es un joueur d'élite, tu as plus de temps de glace, tu développes plus rapidement. On met beaucoup trop rapidement certains joueurs dans la case simple lettre qui ne peuvent pas se développer plus tard. Tu as des exceptions, mais ça arrive beaucoup trop tôt. Et un bon exemple, Erik Karlsson, j'ai déjà lu un texte sur lui avec des entraîneurs qu'il a eu quand il était jeune en Suède, Daf. Un de ses entraîneurs disait, si Erik Karlsson était nord-américain, il ne se serait jamais rendu à la Ligue nationale de hockey. Peut-être le meilleur défenseur de sa génération. Pourquoi? Il était mini. Erik Karlsson, quand il s'est fait repêcher, je pense qu'il pesait 150 livres. En ligne, au Québec ou au Canada, ou bref, il se serait fait tout de suite. Non, toi, t'es trop petit, là. Tu sais, ça marche
pas. Max, oublions pas là-dedans aussi, puis tu l'as vécu parce que t'as joué longtemps au hockey. Moi, j'ai joué à la ringuette très longtemps. Il y a aussi les gamics. T'sais, le fait que ce soit des parents qui coachent bien souvent, il y a des gamics. Dans le double lettre, il y a des gamics. Il y a des gamics de... Tu sais, moi, je me rappelle, ma soeur était goaleuse, justement, puis il y avait toujours un père qui coachait, puis à chaque fois, ben évidemment, sa fille était goaleuse aussi. Ben c'était toujours sa fille qui était choisie, même si ma soeur était bien meilleure. Tu sais, il y a ça aussi. Il y a ça qu'il faut pas oublier. Puis tu le dis, Max, tu sais, il y a des joueurs qui, à talent égal, n'ont peut-être pas la même chance de se développer. L'argent. C'est pas vrai que tout le monde profite. Il y a des parents qui inscrivent leurs enfants dans des camps de hockey, dans des camps de développement. Puis c'est pas vrai qu'à talent égal, les jeunes ont la même chance de se développer. Il y a ça aussi. T'sais.
C'est plus un sport qui est accessible à tous. C'est plus un sport qui est accessible à tous financièrement.
Ben non, puis surtout pas si tu as envie de te développer à un niveau supérieur.
Exact. Bref, on s'est jamais adapté chez Hockey Québec, exactement, au monde qui a changé autour de nous. Combien de kids ne voient pas leur potentiel être pleinement exploité en raison de ça? Il faut changer les choses, c'est sûr et certain. Si je parle du Canadien maintenant, parce que moi, je trouve que oui, le Canadien a quand même sa part des responsabilités. Mmh. Puis, je trouve que c'est un peu comme des parents. T'sais, s'il y a un enfant qui a chiré à quelque part, ça se peut que ce soit juste le père qui était absent, ça se peut que ce soit juste la mère qui a vu quelque chose. Mais souvent, c'est les parents ensemble, c'est un tout. Mais bon, il y a des exceptions. Mais bref, Alexandre Pratt parlait du « je m'en foutisme » de notre génération à toi puis moi, Daf, entre autres, envers cet aspect-là de l'absence de Québécois qui disait que ça le dérangeait. Je le comprends parce que même moi aussi, ça me dérange quand même ce « je m'en foutisme-là ». Mais tu sais, moi, la seule chose que j'avais dit jusqu'ici, j'avais dit sur Twitter que je trouvais que c'était trop simpliste de réduire ça à une histoire de génération. Parce qu'il faut comprendre l'histoire du Canadien. Mais comprendre l'histoire du Canadien, c'est pas juste comprendre ce qui s'est passé avant 1980. Il faut aussi comprendre l'histoire récente. Daf, j'ai 30 ans bientôt. T'en as 27. Le Canadien, pour nous, c'est une organisation médiocre. C'est rien de moins qu'une organisation médiocre. En 30 ans, en bientôt 30 ans, c'était 93, là, depuis la dernière Coupe Stanley, deux finales de l'Est, c'est tout. Deux finales de l'Est inattendues depuis 93. On a grandi avec un club qui, de temps à autre, comme ça, des petits flashs. Ça a été, tu sais, autour de 2009-2010, le centenaire, on a eu du fun.
On s'excitait avec un rien, là.
Ouais, 2014, tu sais, des petits moments comme ça. Jamais de pérennité à long terme comme ont eu des clubs comme le Lightning, comme les Pingouins, comme les Big Three des 90s avec les Devils, l'Avalanche, puis les Red Wings. Jamais, niette. Qu'est-ce que tu penses que ça a créé, ça? Ça a créé une génération complète qui aime le Canadien parce que c'est l'équipe locale, mais qui ont une autre équipe préférée. Puis vous pouvez me dire que c'est pas le seul facteur, vous avez raison. On est une génération qui a grandi en se levant en écoutant Sport 30, qui faisait qu'on pouvait voir l'effet saillant d'autres équipes, puis avec les jeux NHL, qui faisait qu'on pouvait jouer avec d'autres équipes. Je comprends tout ça. Mais pensez-vous que la même génération que nous, à New York, sont fans des Yankees et des A's d'Oakland? Pensez-vous qu'à Dallas, sont fans des Cowboys et des Niners, j'ai n'importe quoi. Il y a juste Raph Doucet qui est fan des Cowboys et des Niners en même temps. Bref, le Canadien, en étant ordinaire ou mauvais, ou médiocre tantôt, sur une longue période, a créé ce détachement-là. Pour des Québécois de mon âge qui accédaient à la Ligue nationale de hockey, puis c'est eux qui sont là, dans la Ligue nationale de hockey, là. Moi, oui, c'est sûr, j'aurais aimé jouer pour le Canadien, mais moi, mon année de repêchage, ça a arrêté 2010. En 2010, penses-tu que j'aurais pas été content d'être repêché par les Penguins de Pittsburgh avec Crosby, qui venait de gagner une Coupe Stanley, avec Malkin, avec le temps, avec Fleury? T'as d'autres équipes qui se sont adaptées. Le Canadien ne s'est jamais adapté. Tu sais, nous, là, quand j'étais jeune, Daf, là, la star du club là, en attaque, c'était Brian Savage, Simonac. Avant que José Théodore arrive, qui ait sa saison de Trophée Hart, il n'y avait rien d'excitant à regarder le Canadien de Montréal. C'est José Théodore qui est arrivé puis qui a rendu ça excitant. Puis d'ailleurs, il est où son hommage à Théo, comme un Sakou Koivu a eu, comme d'autres joueurs de sa génération ont eu? Comment ça se fait que lui, on n'y en a même pas encore donné un hommage au Centre Bell? Le gars a gagné un Hart pour ce club-là, puis c'est un gars d'ici. En tout cas, je dis ça de même. Bref, mais
ça, c'est très. Attends, il y a un autre débat là-dedans. Ça, c'est très canadien de Montréal que d'avoir un gars qui a eu des problèmes à l'extérieur de la patinoire et de ne pas lui donner ces honneurs-là, je crois, ben, parce qu'il a brassé un peu la soupe. Ça aussi, c'est dans la philosophie de l'organisation. Puis, Max, tu le dis, moi aussi, quand les Pingouins de Sidney Crosby, Le Temps, Malkin sont arrivés, les posters dans ma chambre, je te dirais que c'était moitié canadien, moitié le reste que je découpais dans le journal Métro le matin, là, sur Sidney Crosby, etc. Ben oui.
Bref, Daf, porter le chandail du Canadien, qui pour tant de personnes avant nous représente jouer encore mieux, se défoncer. Oui, ça peut vouloir dire ça un peu pour notre génération. Je disais Jean-Charles, c'est ça qu'il disait, il parlait d'Alex Belzile, entre autres, que de jouer à Montréal, ça lui donne de quoi de plus. Oui, mais ça vient aussi avec un poids. Ça va faire 30 ans que le club n'a pas gagné. Ça vient avec le poids de ramener cette gloire-là. Puis en ce moment, tu as Jonathan Drouin et tu as Philippe Danault qui le portent, ce poids-là, chez les Québécois à Montréal. Ils sont juste deux à le porter. Tu sais, ça, là, c'est comme tout dans la vie. Si tu mets une poutre en dessous d'un plancher d'une tonne et si bol ta poutre, elle va fléchir un peu. Si tu en mets 10 poutres, ça va être beaucoup mieux. Bref. Cette envie-là, cette pression supplémentaire-là de jouer à Montréal, je comprends certains joueurs aujourd'hui de ne plus la vouloir. Est-ce qu'ils la prendraient plus si justement il était plus à venir puis que le Canadien, au lieu d'être une tradition à rebâtir, c'est une tradition à poursuivre, à continuer? Moi, je pense que oui. Et aussi, je veux juste dire, là, arrêtons là, les médias de pointer les fans de pointer les médias, puis les franco, puis les... Non, cette pression-là supplémentaire, là, arrêtez, c'est pas les médias. C'est pas les fans qui l'ont créé. De la pression, t'en as dans tous les beaux marchés sportifs au monde. C'est le club qui l'a créé, cette pression-là, justement, en étant ordinaire, moribond, ou, comme j'ai dit, médiocre sur une longue période de temps. Je te parlais de Sears puis de Blockbuster tantôt. Qu'est-ce qui est arrivé quand le monde a changé puis quand le modèle d'affaires est devenu désuet? Ben, ils sont tombés à l'eau. Ils ont fait faillite. Qu'est-ce qui est arrivé? Amazon est arrivé, Netflix est arrivé, puis ça aurait pu être eux qui créent ça, ils l'ont pas fait. Pendant ce temps, une entreprise comme Nintendo, qu'est-ce qui est arrivé? Nintendo, ça a été fondé au 19e siècle, pas au 20e. C'était une compagnie de cartes à jouer, des cartes japonaises. J'ai oublié le nom, là, c'est un nom en japonais très précis, là, mais des cartes à jouer. Le monde a évolué. C'était plus nécessairement les cartes à jouer qui étaient le moyen le plus lucratif de faire de l'argent dans le domaine ludique. Ben, ils se sont mis à créer d'autres types de jeux à devenir aujourd'hui une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde. Ils ne sont pas devenus une compagnie qui investit dans l'immobilier. Non, ils se sont adaptés à ce que leur marché demande. Le Canadien ne l'a jamais fait. Je suis allé voir pour le fun. La dernière Coupe Stanley du Canadien, il y avait 24 équipes. 9 coupes ont été gagnées un peu avant le plateau des 20, puis 14 coupes ont été gagnées avant l'époque où on est passé à 12 équipes. Les Sénateurs, le Lightning, les Panthers, les Ducks, les Preds, les Trashers qui ont eu le temps de déménager à Winnipeg, les Blue Jackets, le Wild, les Golden Knights et bientôt le Kraken ont eu le temps de naître depuis la dernière Coupe Stanley du Canadien.
Puis Max, tu le dis, tout ça, tu sais, quand je pense, mettons, à Roberto Luongo et François Allaire qui ont amené leur expertise, qui a été expatriée aux États-Unis. Pourquoi ne pas avoir rapatrié ces gars-là qui sont excellents? Pourquoi ne pas avoir capitalisé sur le fait qu'un Martin Brodeur prenait sa retraite et lui offrait quelque chose? Ça aussi, tu sais, ça me désole. Puis Max, je suis d'accord avec toi quand tu dis que pour enlever un peu de pression sur les Québécois, les francophones qu'on a dans notre équipe, parce que ça devient des porte-étendards, parce que ça devient des porte-paroles. On est des médias francophones. On veut, tu sais, surtout à la radio, Max, tu le fais aussi,
ben oui.
Avec ça, on a besoin de la clip en français. À la radio, ça se traduit pas, ça se traduit mal. Durant les nouvelles, on n'a pas le temps d'avoir juste deux gars vers qui se retourner, qui vont devoir répondre jour après jour après jour aux questions de tous les médias. Ça devient épuisant et éreintant.
Ouais.
Et tu as raison de le souligner, c'est un excellent point que tu amènes. Puis Max, je voudrais juste terminer en disant, je comprends l'histoire de ce club-là. Je pense aussi qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, on a accès à beaucoup plus de sports qu'on ne l'avait avant un peu. Puis il y avait Phil Mallow qui apportait sur Twitter cette espèce de dire, tu sais, que si on comprend pas ce débat-là, c'est parce qu'on comprend pas l'histoire culturelle du Québec puis un paquet de choses de son peuple. Si on comprend pas qu'est-ce que le club du Canadien représente pour notre peuple, ça n'a rien à voir avec ses chances de gagner la Coupe cette année. Et il y a Frank Courchesne qui a répondu, puis j'ai quand même aimé ça parce que ça amène, c'est ça, tu sais, moi, je suis quand même vraiment tempérée dans ce débat-là en disant, mais dans le temps, il n'y avait rien d'autre. Tu sais, le hockey, c'est ce qui passait à la radio. En famille, on s'agglutinait autour de radio parce que il y avait ça à faire. Le hockey passait gratuitement sur la TV ou qu'il n'y avait pas de câble. Aujourd'hui, c'est comme devenu un peu un sport parmi tant d'autres. Puis comme Québécois, on se définit peut-être de moins en moins avec le hockey aussi parce que le soccer s'est développé, parce que le basket s'est développé, parce qu'on est une société aussi multiculturelle qui amène d'autres choses, dont des sports différents. Puis c'est rendu un divertissement beaucoup plus que... à l'époque de Maurice Richard, qui était le reflet même de la société et du combat des francophones contre les anglophones, tu sais, avec la suspension contre Campbell, toutes les émeutes qu'il y a eu. Tu sais, je comprends tout ça de l'histoire du Canadien. Maintenant, je pense que c'est aussi aux Canadiens de Montréal de faire comprendre à ses joueurs le privilège que c'est de porter le logo du Canadien. Et dans ce cas-là, Max, tu dis que le Canadien a une responsabilité. Bien, pour moi, c'est de transmettre cette histoire-là avec Maurice Richard. Qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que ce club-là a représenté pour les petits Québécois qui étaient nés pour un petit pain à l'époque?
Ouais. Ouais. On a coupé les ponts avec le passé, avec certains joueurs, entre autres. Mmh. On en a souvent entendu parler dans les 10 dernières années. Moi, je conclurais en disant que le Canadien n'a plus d'identité. C'est plate, là. Mais le Canadien n'a plus d'identité. Les Big Bad Bruins ont toujours leur identité. Le Lightning de Tampa Bay s'est créé une belle identité avec une courte histoire. Tu as plusieurs clubs comme ça, puis on peut aller partout à travers le monde. Puis je comprends que le hockey, puis le sport nord-américain, en fait, en général, s'est développé d'une façon différente du sport européen, où les gens sont allés dans la rue en Angleterre pour contrer la Super League qui s'est créée. Je comprends qu'ici, ça s'est développé différemment. Mais moi, sans déchirer ma chemise quand le temps d'un match, parce que deux joueurs importants du club, Dano et Drouin, sont blessés, puis ça donne qu'il n'y a pas de Québécois dans l'équipe, sans déchirer ma chemise là-dessus, moi, c'est pas vrai que je m'en fous. Je m'identifie plus quand même. Je suis beaucoup plus les Michael Kingsbury, les Megan Benfetto de ce monde aux Jeux olympiques qu'un athlète de la Colombie-Britannique. Moi, je suis comme ça. Je veux voir le Canadien retrouver une identité. On sait pas trop chicaner finalement, Daph.
Ouais, mais je pense que c'est ça la beauté des milléniaux, Max. C'est qu'on est capable d'entendre le point de l'autre. Puis même si on a des points de vue différents, on saute pas de tu sais, on aurait pu sauter de nos écrans là en se levant et puis faire bosser le son. Mais je pense que non, mais tu sais, sincèrement, je pense que c'est ça la beauté des milléniaux et j'adore ça. De dire
quelle flèche lancée aux autres et aux générations.
Ton point. Voilà. Mais non, mais on vous adore, là. Mais des fois, oui, c'est un petit peu plus difficile que de... Tu sais, des fois, quand je discute avec mon ami Pierre Rinfray, puis qu'il part sur une envolée lyrique assez forte, merci, que je dois retirer mon téléphone, l'appareil de mon oreille, parce que sinon, je deviendrais peut-être sourde. Tu sais, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, c'est le fun d'amener des points différents. Puis tu vois, au cours de la conversation, j'ai quand même adhéré à ce que tu as dit, puis je suis capable de rebondir là-dessus, parce que je suis capable d'avoir de l'introspection, puis de dire, ben ouais, je suis quand même d'accord avec tel ou tel point. Je suis un petit peu d'accord avec moins de points. Voilà.
Ça fait de la bonne radio, par contre, quand Pierre s'emporte. Il faut quand même lui donner ça. Daph, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. On a pris 100% de notre temps cette semaine pour parler de ce débat-là. Mais honnêtement, je pense qu'il fallait le faire.
Je pense que ça valait la peine. Puis je voudrais juste glisser un petit mot, Max, sur notre sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder nécessairement. Mais on n'arrête pas le progrès, puis je trouve ça le fun. Pour la première fois dans la Ligue nationale de hockey, 3 joueurs afro-américains se sont retrouvés au sein d'un même trio avec le Lightning de Tampa Bay. Et 2 de ces 3 joueurs-là étaient des Québécois. Et on le parle, l'importance des Québécois, on va beaucoup plus suivre avec intérêt les Québécois à travers la Ligue nationale, à travers les autres sports. Puis moi, j'étais vraiment fière de voir ça. Je dis souvent que la Ligue nationale a beaucoup de travail à faire. On doit non seulement créer des comités, mais vraiment faire refléter ces espèces de comités-là pour la diversité. Puis c'est là une belle preuve que on fait un petit peu avancer les choses. C'est pas parfait. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais j'étais contente de voir qu'en 2021, on voyait quand même ça. Fait que voilà, chapeau Lightning, chapeau à ces joueurs-là qui ont peut-être vécu des choses terribles dans leur parcours professionnel de hockey, mais aussi dans les mineurs, ont peut-être vécu de la discrimination. Peut-être qu'on le verra dans une biographie qui va sortir après leur carrière, mais je leur souhaite. Je veux dire, tu sais, ils l'ont pas volé d'être là. Puis j'espère qu'ils ont célébré ce fait-là d'être les premiers à vivre ça dans la Ligue nationale.
Le hockey pour tous, il faut que ce soit plus qu'un slogan. Chapeau aux 3 joueurs du Lightning de Tampa Bay, dont Mathieu Joseph et Daniel Walcott. Daph, c'est le temps. Il est en train de nous écrire. Il a slidé dans nos DM. Allons parler à notre ami Marc-André.
Max, s'il y avait quelqu'un que j'avais envie qui slide dans nos DMs, c'est un peu le gars qu'on va recevoir, Marc-André Perrault, qui est un ami de l'émission, hein, parce que c'est un ami à toi et moi. C'est un gars qui travaille à TVA Sports depuis des années déjà et qui couvre le Canadien, puis qui le fait à sa façon, qui a sa couleur. Puis j'ai vraiment hâte de l'entendre sur tout ce qui a été aussi la saison cette année avec le Canadien, couvrir ça en temps de pandémie, ça a été quoi? Mais aussi, c'est qui Marc-André Perrault? Puis pourquoi il est aussi drôle?
Ben, allons lui parler, mon beau Perrault, comment ça va?
Écoute, une belle présentation comme ça. Top shape, et vous, les enfants?
Ça va super, les enfants.
Parce que là, vous êtes milléniaux, DM, slider, tout ça. Moi, j'ai 38 ans, là.
T'es un millénial dans mon cœur, Marc-André. T'es définitivement un millénial dans mon cœur. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux ce matin, Marc-André, qu'on puisse vivre notre bromance comme ça, qu'on se partage à la vue de tous sur Twitter et que là, on puisse comme ça se parler en ondes. Comment tu vas ce matin?
Ben, ça va bien. J'ai des frissons aussi là, à l'idée de te voir comme ça pendant plusieurs minutes. Bon, Daphné est là, mais écoute, c'est pas grave.
C'est ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, les gens qui pensent que Max et moi, on est en couple ou quoi que ce soit, non, parce que Max est pris malheureusement par Marc-André Perrault.
Ben oui, mais comment ne pas me laisser prendre mon cœur par ce beau garçon?
C'est une histoire spéciale, ça ne s'explique pas, ça fait juste se vivre, comme plusieurs choses dans la vie d'ailleurs. Mais on le vit à fond, mais de façon virtuelle. Mais c'est savoureux.
L'amour ne s'explique pas, Marc-André. Marc, on est tellement heureux de te recevoir cette semaine pour plusieurs raisons. T'es un des rares au Québec qui a vraiment couvert le Canadien un peu plus de façon normale cette année, les avoir suivis sur la route beaucoup plus. Je sais que Alexandre Gascon de Radio-Canada a suivi un peu par moment. Je sais que les gars du Journal de Montréal puis de la presse, je pense qu'ils ont juste fait Toronto et Ottawa. Bref, t'es le seul qui est allé dans l'Ouest cette année. Bref, on voulait te parler de beaucoup de choses et de ça, mais avant, pour moi, je voulais tellement t'entendre sur ta personnalité en onde, la façon avec laquelle tu choisis de couvrir le Canadien, parce que honnêtement, j'entends beaucoup parler de toi. entre autres par des chums qui suivent beaucoup le sport, puis que, tu sais, vu que je travaille là-dedans, des fois, ils vont m'écrire, « Hey, tu le connais-tu? Il a l'air le fun. » J'ai même déjà reçu un commentaire d'un ami, et je te jure que c'était un compliment là, qu'il envoyait, qui disait, « Lui, on dirait qu'il est autour d'un feu de camp quand il fait ses converses. C'est le fun. » Tu rends ça un peu plus attrayant, un peu plus nouveau genre. Et tiens de le dire, tu as 38 ans. C'est pas comme si tu étais dans la vingtaine. Ça vient d'où, ce côté-là que tu as en nombre de rester léger, puis de te distinguer, puis de rester toi-même?
Ben, je suis immature en partant. Fait que ça, c'est la raison principale. Mais tu sais, pour vrai, tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière, bon, j'ai commencé à RDS, ben, tu sais, je faisais le télésouffleur, puis je faisais des affaires plates, là, même si ça a été une super de belle expérience. Après ça, j'ai été à Radio-Canada. Puis là, je me suis retrouvé dans le nord de l'Ontario, puis je m'étais fait former par un gars à Toronto, un gars super gentil, mais c'est un anglophone, un francophile. Puis, tu sais, moi, j'arrive, là, tu sais, je veux plaire à tout le monde parce que, écoute, à ce temps-là, j'ai 22, 23 ans. Puis là, il me dit, ben là, va falloir faire attention de la façon que tu parles, puis plus prononcé. Puis, tu sais, là, je m'en vais à Timmins, puis je me souviens, c'est un reportage, là, c'est dans le fin fond, proche de Cochrane, pour le monde qui a une idée. Puis, c'est comme une gang de. Ben, j'allais dire de bizarres noms, là, mais tu sais, ils viennent dans une genre de communauté. Puis, comme ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de. En tout cas, bref, là, je reviens, je fais mon montage, puis là, je voice, tu sais. Et là, je vous le dis, là, j'ai l'air d'un genre de faux français de France. Puis là, je dis, non, pas vrai ici que je vais me la jouer, là, au gars qui fait semblant d'être plus intelligent qu'un autre, là, puis tu sais. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, genre, juste parler, genre, comme je vous parle là. Puis, là, c'est vraiment le début. Là. Je m'écarte là, dans l'historique. Là. C'est pas comme si c'était une histoire bien intéressante. Mais là, ça part comme ça. Puis là, je me mets à être vraiment à parler comme je vous parle là. Puis là, à un moment donné, j'arrive à TVA. Puis, tu sais, pour le, faire la bille du Canadien. Puis eux autres, là, ils ont toujours. Tu sais, c'est Martin Dion. Puis Philippe Leveux. Eux autres, ils ont toujours. Tu sais, ils m'ont toujours laissé aller comme je suis. Puis moi, c'est ça, je lui dis. Je veux être de même. Je veux faire des jokes. Je veux juste être moi-même parce qu'on fait du sport. Puis. Je veux que le gars qui m'écoute, évidemment, qui m'écoute à la maison, se dit, hey, on dirait qu'il me parle en prenant une bière ou autour d'un feu de camp. Fait que, tu sais, ils m'ont toujours laissé la liberté totale, puis c'est juste moi. Fait que, tu sais, vous savez, il n'y a rien de plus gossant que de rencontrer quelqu'un que tu y parles, puis là, qu'en onde, tu l'entends, tu dis, mon Dieu, tu sais. Fait que, je voulais vraiment pas être cette personne-là, puis c'est ça, je suis juste moi, puis tu sais, je l'ai dit, c'est même pas pour me. Je suis un tata, là, je suis un immature, puis je fais juste parler de hockey. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je suis pas un ancien joueur qui a joué dans le national, je suis pas un ancien arbitre ou un ancien coach. Là. Fait, moi, tout ce que je fais, là, je vais à l'entraînement, je raconte ce qui s'est passé, mais tu sais, c'est faire dire, bon, le premier trio, t'es le gars, t'es le deuxième, t'es. Non, non, t'es ailleurs, là. Fait que j'essaie de rendre ça. En fait, j'essaie même pas, c'est ça le pire, c'est juste de même, puis ça juste comme. C'est un peu long comme réponse, hein. C'est tout le temps qu'on avait.
Mais tu dis que tu es un tata. D'abord, je veux juste préciser que tu es un beau tata. Mais j'écoutais ta réponse, puis il y a une chose qui m'est revenue en tête, puis là, je m'excuse si je ne cite pas la bonne personne, mais de mémoire, c'est JF Tremblay, directeur des sports à la presse, qui a tweeté ça récemment, qui disait que tu prends ta job au sérieux, mais tu ne te prends pas au sérieux. Puis je trouvais ça tellement beau parce que, de un, c'est vrai, et de deux, je pense que aussi c'est une des raisons pour qu'on s'entend si bien, c'est que je partage tellement ton idéologie là-dessus. Mais moi, la seule question que j'ai, tu dis que tes boss à TVA Sports te laissent le faire, puis ça, honnêtement, je leur lève mon chapeau parce que c'est le fun. À Radio-Canada, c'est un peu plus surprenant parce qu'habituellement, on sait que Radio-Canada, c'est un peu plus square, mais justement, ce style-là que tu as, tu sais, Jean-Charles, puis justement, on va en parler un peu plus tard de tes converses avec Jean-Charles parce que c'est du bonbon, mais c'est quelqu'un qui le fait beaucoup, mais tu sais, c'est un animateur. Des chroniqueurs, on les entend beaucoup être comme ça, mais c'est plus rare des journalistes terrain. Puis des fois, peut-être qu'il y a des gens qui auraient peur justement d'être pris un peu moins au sérieux, mais toi, ça te fait pas peur, puis même que c'est devenu un de tes gros avantages.
Ben, tu sais, ben, parce qu'à Radio-Canada aussi, il y avait le cadre des émissions, c'était pas pareil. Tu sais, j'étais comme, je faisais le bulletin de sport. On avait, je sais pas, c'était un peu. Puis, on m'a jamais dit, hey, comme fais pas ça. C'est juste, tu sais, des fois, tu sais dans la vie, là, quand ça fit avec où est-ce que t'es. Là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Parce que là, tu me parlais de mes converses. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît?
Non, mais je disais que Jean-François disait de toi que tu prends ton travail au sérieux, mais tu ne te prends pas toi au sérieux.
Mais je pense que c'est le plus beau compliment professionnel qu'on puisse avoir. Tu sais, je me suis toujours vu un peu comme un imposteur dans ce milieu-là. Pour moi, un journaliste, un bon journaliste, là, c'est justement comme Jean-François Chaumont de la presse. Jonathan Bernier, c'est le Journal de Montréal, Jonathan Bernier, Guillaume Lefrançois, tu sais, c'est des gars qui vont plus fouiller, qui vont plus, ou tu sais, des collègues à TVA, Nouvelles. Moi, je me vois pas comme un grand journaliste, tu sais, je pense que mon travail, c'est d'aller voir ce qui se passe, puis de le raconter. Fait aussi bien rendre ça intéressant, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt, c'est juste préparer un tableau avec les trios, préparer un tableau avec les statistiques. Tu sais, moi, je pense pas. Tu sais, j'écoutais Chaumont justement qui a appelé Brian Giunta, qui a appelé telle personne. Tu sais, moi, c'est pas dans mon mandat nécessairement. Fait que moi, je me vois plus comme un raconteur de la pratique. Puis c'est ça, là, je prends les affaires au sérieux, puis j'en drop des stats, là, puis je connais mes affaires. C'est juste que on a comme trouvé chaque personne dans sa case, tu sais, je parle beaucoup avec Renaud, lui, il a sa case à lui, puis on se pile pas ses pieds, au contraire, on s'aide, moi, je fais mes affaires, puis après ça, ben, justement, JC ou les fiches de ce nom de Mike Bossy, les autres, ils vont faire, tu sais, ils vont commenter, fait que c'est un peu ça, tu sais, chacun sa case, puis moi, là, je vous le dis, ça fait parfait, puis je ferais pas d'autre chose dans le journalisme, puis je me vois pas, tu sais, respect, là, au gars qui fouille,
puis tu sais, en tout cas. Ça, mais oui, tu le dis. Puis je veux dire, n'est pas Guillaume Lefrançois qui veut. On t'aime, Guillaume, si tu nous écoutes. C'est un gars en or, mais je veux dire, tu sais, lui, ça le passionne de faire toutes ces recherches-là. Et c'est tout à son honneur parce que c'est un des meilleurs journalistes que je connaisse. Journaliste sportif, mais journaliste aussi, toute section confondue. Mais c'est... Puis tu le dis tellement, t'as trouvé ta case, t'as trouvé ta niche. Puis tu sais, il y a souvent ce sentiment d'imposteur-là dans ce métier-là. Je pense, ça fait 5 ans que je le pratique, puis on m'avait toujours dit, « Ouais, mais là, tu sais, c'est quoi toi, ta couleur? C'est quoi le... Tu sais, pourquoi toi, t'es pertinente? Pourquoi je t'engagerais au lieu de quelqu'un d'autre? » Puis je pense que cette question-là m'a terrorisée très, très longtemps, jusqu'au moment où je me suis rendu compte, cette année, que d'être moi-même, là, c'était ça, ma couleur. D'être moi-même, c'était ça qui me permettait de me distinguer. Puis au lieu de tweeter, justement, très radio-canadien, puis tu sais, c'est pas une insulte que de dire radio-canadien, mais tu sais, de tweeter de façon très journalistiquement parlant sur le canadien, c'était pas ça qui me distinguait, mais c'était de justement d'ajouter ma couleur comme si je parlais à n'importe quel autre ami. Puis que je mettais des gifs, puis c'est ça qui rejoint les gens qui vont être mon public cible au final, parce que on se ressemble, puis on s'assemble, puis c'est ça. Fait que tu sais, j'imagine que pour toi, d'avoir trouvé aussi que d'être Marc-André Perrault, que c'était ta couleur à toi, puis que c'était ce qui te permettait de te distinguer, c'est le fun.
Mais tu sais, moi, je trouve toujours ça bizarre quand un boss te pose ce genre de questions-là, comme... Man, t'es supposé d'avoir un flair, c'est tes boss, puis t'es supposé de le voir, c'est moi, tu sais.
C'est tellement stressant comme question, voyons.
Ben oui, mais ça n'a pas de logique, tu sais. C'est qu'est-ce que tu peux amener à l'entreprise? Ben, écoute, tu sais, si tu me fais venir dans ton bureau, t'as mon CV, tu sais un petit peu ce que je fais, tu sais. Mais, c'est parce que je le dis souvent aux jeunes, il va toujours en avoir un meilleur journaliste que toi, là. Tu sais, mais il n'y aura jamais quelqu'un comme toi, tu sais, ta personnalité. Fait que t'as beau essayer de chercher. Écoute, ben, tu sais, on va aller, on va confiance, mais un gros Guillaume, on l'aime énormément, puis c'est un gars, écoute, c'est une machine, là. Mais des fois, tu sais, je suis dans l'Ouest, puis là, je finis la game, puis là, je rentre à l'hôtel, puis là, je sais pas, moi, il est minuit là-bas, fait qu'il est 3h du site, puis là, je tweet de quoi, puis Guillaume, il like, quoi. Il retweet, tu sais. Il va toujours en avoir un, tu sais, qui... De même, puis là, on dit le nom Guillaume, mais ce que je veux dire, il va toujours en avoir un meilleur journaliste que toi, un gars qui, probablement, qui va chercher plus, parce qu'à un moment donné, il y en a qui ne dorment pas, mais c'est ça, il n'y a jamais personne qui va être comme toi. Fait, mise là-dessus, mise sur ce qui le différencie, puis qu'il n'y a jamais personne qui va pouvoir être meilleur que toi, d'être toi, ça fait pas de sens comme phrase, mais vous comprenez. Fait que tu sais, ouais. C'est un peu ce qu'on entend.
T'es un gars de l'Abitibi, Marc-André, et pour connaître beaucoup de gens de l'Abitibi, c'est des gens que j'affectionne particulièrement parce que vous avez ce don-là d'être proche des gens, d'être proche du monde que vous aimez, d'être des grands rassembleurs. Est-ce que tu crois que, tu sais, Marc-André Perrault, le raconteur, ça vient de là, ça vient de la façon que tu as été élevé, puis de la façon que tu as toujours fait les choses en racontant des histoires à tes chums comme ça?
Ben, tu sais, moi, j'ai grandi sur un terrain de golf, fait, de 3 à 12 ans. Fait que, tu sais, j'étais haut de même, puis là, mettons, il y a du monde qui arrivait au club de golf, puis là, je sortais dehors, puis j'étais tout content avec mon sac, puis je peux jouer avec vous autres. T'sais. Fait que, moi, tu sais, j'ai toujours jasé avec le monde. Fait que, j'imagine qu'à un moment donné, j'ai compris un peu, tu sais, bon, tu sais, la personnalité, ça, on l'est avec, là, on peut faire. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, tu sais. Mais, tu sais, j'ai compris à parler avec les gens, puis à interagir, puis, tu sais, je prends un plaisir à. Tu sais, je pense pas que c'est moi qui prends le plus de place dans un groupe nécessairement, mais j'aime ça jaser, puis j'aime ça faire rire le monde. Fait que je pense que c'est plus comme ça que c'est venu, tu sais, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, parce que. J'ai quand même déménagé souvent, fait que tu sais, j'ai des bons chums, mais tu sais, j'ai pas ma gang de chums de quand j'étais vraiment enfant. Fait que je pense que c'est un peu plus ça, fait que, mais je veux dire, chez nous, je pense que mon père est un peu de même, là, c'est pas là, c'est ça, il jase, puis il l'emmerde un peu, fait que...
T'as beaucoup déménagé, Marc?
Oh, j'ai déménagé, oh, écoute, ben moi, je suis né dans le nord, donc, ben, je suis né à Elliott Lake, en Ontario, mon père, c'était un mineur. Accident de mine. Fait que là, on grandissait un terrain de golf, puis écoute, ça a été la plus belle enfance au monde. Puis, tu sais, écoute, j'avais jamais pensé à ça. Des fois, quand on raconte des affaires, on réalise des choses, mais je pense que c'est ça. Tu sais, j'étais tellement tout le temps avec le monde. J'étais tout le temps. J'étais tout le temps en interaction, puis savoir comment les gens réagissent, tout ça. Puis, tu sais, le monde me trouvait bien drôle. Fait que c'est ça. Après ça, j'étais allé en sport-études golf à Trois-Rivières. Après ça, j'ai resté à Québec, à l'université à Québec. Entre-temps, j'ai resté à Gatineau. Écoute, non, j'ai passé à la gratte, m'a dit.
Mais je te dis ça parce que, vois-tu, là, il est vraiment temps que la pandémie finisse et qu'on retourne prendre une bière ensemble parce que moi aussi, j'ai gros déménagé. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on s'aime autant. C'est sûr qu'il y a quelque chose là.
Avec ton joli, ouais, c'est ça.
Mais t'as parlé de ta présence Twitter un peu plus tôt, puis c'est vraiment niaiseux, là, mais tu sais, ben en fait, c'est pas niaiseux, là, c'est vraiment rendu une partie importante de notre travail en 2021. Puis honnêtement, je te lance des fleurs. En tout cas, c'est peut-être juste qu'avant, je te portais pas assez attention, puis je m'en excuse là, de pas donner toute l'attention que tu mérites. Mais t'as vraiment, passez-moi l'anglicisme, en fait, non, je dirais même pas l'anglicisme, t'as élevé ton jeu d'un cran cette année, je trouve, puis quelque chose qui est vraiment niaiseux, mais que je pense qu'il est un bel accident puis qu'il est rendu un peu ton trademark, c'est tes fameuses photos avec les joueurs encerclés sur Twitter. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis je comprends déjà un peu plus que, tu sais, c'est une continuité justement de ce que tu disais tantôt que, tu sais, puis ça, moi, je suis pareil comme toi. Moi, quand j'ai commencé puis que j'ai commencé à faire des matchs canadiens puis que, tu sais, ça me donne absolument rien de tweeter à une partie que, je sais pas, moi, Jake Evans vient de marquer, je veux dire, tout le monde a son sel en 2021 puis t'as justement 12 journalistes qui le font. Fait que toi, tu vas ailleurs, mais entre autres, tu mets des photos des joueurs aux entraînements puis là, t'as commencé par en encercler un. Et le monde se sont mis à trouver ça vraiment très bon, puis c'est rendu ton trademark. Et là, tu ajoutes des couleurs et tu fais rire le monde avec ça, puis ça contribue à ta personnalité.
Ben, tu sais, quand je dis que je suis tata, une des raisons, c'est que moi, quand je trouve quelque chose de drôle, là, j'y vais à fond, même quand personne qui trouve ça drôle, mais ben, moi, je trouve encore ça drôle. Mais tu sais, cette année, ça a été spécial parce que on a été les, tu en as parlé tantôt, on a pas mal été les seuls à voyager. Puis, tu sais, je pense que les gens, en tout cas, tu sais, moi, au début, je me disais, les gens vont-tu nous critiquer, vont-tu dire, hey, on est donc bien imprudents, parce que vous savez, tu sais, pendant, je pense que ça s'est beaucoup, beaucoup calmé. Mais, tu sais, on a été quand même une cible assez facile, là, TVA Sports, sur ces réseaux sociaux. Puis, je pense que cette année, ça a aidé à ce switch-là, tu sais, qu'on soit les seuls à y aller. Puis, je pense que les gens avaient besoin de ça, puis avaient besoin de nouvelles. Puis, bon, mon Twitter a explosé, mais l'affaire, c'est que là, on est là, sauf que souvent, on est loin, là, on est dans le pit parce que il ne faut pas que tu sois proche des joueurs, parce que même si on est masqué tout ça. Fait que là, tu sais, on est quasiment sur le plafond. Je prends une photo, puis là, je dis, bon, tel gars il est là, là, c'est comme, j'aurais pu, ça peut être n'importe qui. Fait que là, je m'étais même encerclé un, puis là, ben, c'est ça. Là, après ça, ça. Je trouve ça drôle. Fait que là, moi, comme un enfant qui t'encourage, ben, là, ça partit, tu sais. Puis, ben, c'est vraiment ça. C'est qu'au début, on était j'étais tellement loin que ça ne me sert à rien. Fait que là, ça a commencé, puis là, écoute, des fois, c'est des pièces d'or. Là, quasiment, je préfère l'argent avec ça.
Tu préfères encadrer comme ça, puis faire tes zooms avec ton œuvre d'art derrière toi. C'est cœur, là.
Alors, c'est sûr.
Tu parles de couvrir le Canadien dans ces temps de pandémie. Je pense que tu l'as dit et ça a été bien fait aussi. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas niaiseux et que des mesures qui ont été mises en place, j'imagine, par TVA Sports, mais de donner ça aux gens pendant que le couvre-feu, pendant que la pandémie, pendant que il n'y a pas grand-chose à faire, de les amener avec vous sur la route. Ça a été comment de couvrir le Canadien cette année? Parce que, on va se le dire, là, c'est pas facile à faire. Moi qui le fais aussi avec le Rocket, c'est très aseptisé. C'est pas comme faire notre job habituellement. Tu sais, t'entres pas dans le vestiaire, t'as pas le feeling du vestiaire. Tu sais, souvent, on rentre dans le vestiaire puis on sait, OK, ah, les gars sont pas contents, là. Puis ça se sent, tu sais, c'est une atmosphère qui se ressent. Comment t'as trouvé ça de couvrir le Canadien dans une année comme ça qui est très, très atypique?
Ben, ça a été évidemment très différent, mais pour moi, j'ai pas trouvé que ça a changé tellement, là. Parce que c'est sûr que quand tu rentres dans un vestiaire, comme tu dis, t'as plus le côté feeling, mais tu peux quand même le voir sur la glace. Puis quand Chaumont est pas à côté de toi pour te déranger, ben, tu peux regarder la pratique. Mais tu sais, on n'a jamais été. Pour vrai, c'est juste une chose, je me suis jamais senti pas en sécurité, là. C'est vraiment, c'était super respecté, mais moi, j'ai adoré ça. Tu sais, c'est pas pareil faire de la télé quand t'es, tu sais, mettons, dans ton sol, parler de la game dans son sport, quand t'es sur place, tu sais, t'as quand même une certaine vibe quand t'es là. Puis, tu sais, pour moi, ça a été une bénédiction, là, je veux dire, quand t'es le seul, ben là, ouais, je veux dire, tu sais, tantôt, Max, tu parlais, il y a 12 personnes qui tweetent les trios. Mais là, j'étais le seul. Puis, je peux-tu te dire que le monde avait hâte de savoir les trios, tu sais, qu'il y a eu tous les changements. Fait que là, ça devenait important. À un moment donné, une situation à Vancouver, que, tu sais, la liste COVID n'était pas sortie encore. Puis là, finalement, c'est parce que c'était 5 heures, heure locale. Là, ça explose. Je sais que ça, à Montréal, le monde capotait. Moi, j'étais là. J'ai vu le PR Paul Wilson, je disais, hey, comme tout est beau, fait que là, je suis allé en onde avec ça, fait que, tu sais, t'es le seul, puis, tu sais, on l'a vu, ça fait 2 semaines, là, Cole Caulfield, là, les buts qu'il a marqués à la pratique à Calgary, là. Je veux dire, c'est, j'étais le seul à être là, puis on a eu une grosse portion de chance, là, mais, tu vois, c'est ça l'affaire. Ça revient un peu à ce que vous, tu sais, ce que Jean-François Tremblay disait, c'est je me prends pas au sérieux, mais je prends mon travail au sérieux. Là. Moi, je suis à Calgary, il y a une pratique optionnelle. Je viens de me taper, là, tu sais, 6 jours à Edmonton, j'ai voyagé, tu sais, je veux dire, je suis un peu fatigué, je fais pas pitié, là, mais je suis un peu fatigué. Pratique optionnelle, puis là, avec mon caméraman, puis je vous le dis, là, la pratique finie, et là, il y a les extras qui restent, dont Cole Caulfield, puis là, on descend en bas, on descend les marches, on s'en va, puis là, je regarde mon caméraman, je dis, un feeling. Là, il se vire vers moi, ça ne fait rien. Il dit, c'est un feeling, on va rester. On remonte en haut, je dis, mets ta caméra sur Caulfield, puis lâche-les pas. Ben, bang, fais un but, là, c'était contre Charlie Lindgren, le pauvre diable. Fait que là, parfait. Là, il y a une game le soir. Le lendemain, là, c'est optionnel d'optionnel. Ben, tabarnouche, je dis, là, reste carré encore, puis on n'a pas mis une autre vidéo. Fait que ça, c'est. On ne se pogne pas le derrière, on travaille. Mais c'est ça, on était les seuls à avoir ces images-là. Puis, c'est bien niaiseux, là, on s'entend, c'est un but pratique. Sauf que tout le monde n'a pas trouvé ça niaiseux. Puis, il était content de le voir, celui-là. Fait que c'est ça, c'était. C'est, pour moi, j'ai pas vu grand changement dans même si j'étais pas dans le vestiaire, on fait avec ce qu'on a, puis c'est plus pour les gars de la presse écrite, justement, là, que ça devient plus difficile.
Je t'en ai glissé un mot un peu plus tôt, mais là, je veux absolument t'entendre là-dessus parce que au fil de l'année, parce que bon, évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, ma job de jour, c'est d'être dans le club à Langue d'Eau au 91 Nos Sports. Donc, en même temps que l'émission JC à TVA Sport routé, mais je ne cessais de voir sur Twitter des interactions qui complimentaient tes segments avec JC. Puis, j'ai travaillé évidemment avec Jean-Charles, je le connais très bien, je te connais très bien, puis sans même avoir regardé, j'étais capable de m'imaginer de quoi les converses devaient avoir l'air. Mais une fois, j'ai réussi à en pogner une live et, mon Dieu, c'est 100 fois mieux encore que tout ce que j'imaginais. Mais justement, on en parlait un peu plus tôt, mais ça revient à tout ce qu'on disait sur ta couleur en ondes, mais aussi celle de JC. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent peut-être pas nécessairement à quel point, tu sais, c'est voulu ça. Vous jouez sur le malaise. Les deux, vous êtes très bons. Vous êtes bons improvisateurs. Vous avez des belles personnalités. Puis, ça crée vraiment un segment avec un journaliste terrain qui est complètement différent de ce qu'on entend ailleurs. Parce que même si tu as ta propre personnalité, elle est comme encore plus, elle est découpée encore plus avec JC.
Ben, je pense qu'on a trouvé le ton qui nous convenait les deux. C'est un, ben, ça veut dire que c'est un match parfait. Disons que je pense qu'on se complète super bien. Mais il y a eu une période d'adaptation et de... on a dû s'apprivoiser, j'imagine. Mais c'est ça parce que tu sais, quand t'arrives, tu sais, je veux dire, il parle beaucoup, il parle bien, puis tu sais, il y a vraiment de la suite dans les idées, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, je m'agaçais, puis là, je veux dire, bon, regarde, moi aussi, je vais me gâter, là, tu sais. Fait qu'on a commencé à s'agacer un petit peu, puis, tu sais, c'est ça que tu sais, ce que tu disais, c'est que, tu sais, on, mettons, si on regarde chez RDS, ça forme complètement différent, puis c'est ça que je trouve le fun. Le monde a le choix. Choisis, tu sais, nous autres, on y va un petit peu, de façon un peu plus déridée, on s'agace, bon, j'ai ma façon de faire, de l'autre côté, c'est un petit peu plus conventionnel, parce que c'est correct, tu sais. Mais pour revenir à JC, c'est ça, on, à un moment donné, je pense que ça a juste débloqué, pardon, puis là, j'ai compris, ouais, tu sais, je pense qu'on sait jusqu'où on peut aller, mais en fait, je dis ça, il n'y a pas vraiment de limite, là, tu sais, parce que c'est fait vraiment dans le respect, puis on s'agace, puis c'est pas toujours facile là, parce que tu sais, c'est ça. C'est lui l'animateur first, puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup donner son opinion. Fait que là, des fois, c'est ça, faut se dire, écoute-moi bien, le time out, là, c'est moi qui parle, tu sais, puis là, ça part. Fait que, ça a des bons moments, je pense.
C'est parfait parce que tu sais, Jean-Charles adore trouver des gens avec qui il peut valser. Il adore. Tu sais, c'est un showman. Faut pas l'oublier. T'sais, c'est ça aussi, des fois, les gens sont comme, mais là, ils sont-tu vraiment fâchés? Mais non, Jean-Charles, il a fait ça avec Mathias Brunet à l'époque au 91-9. Il aime ça trouver une victime qui est capable de répondre puis qui est capable aussi d'embarquer dans son jeu puis de niaiser. Faut jamais oublier que ça reste un show. Puis je pense que trouver un des meilleurs showmen à TVA Sport pour valser avec lui. Là.
Ben écoute, on a bien du fun. Puis. Tu sais, tu disais, je sais, c'est un showman, là, puis je pense sincèrement, là, comme moi, je pense pas avoir vu ça dans ma vie, quelqu'un qui a autant de comment on dit ça, de la verve. Ouais, tu sais, qui s'exprime aussi bien, tu sais, de façon super colorée. Moi, écoute, des fois, je l'écoute, je dis, man, t'es où dans ta tête, là, ça, quand,
c'est ça qui parle. Mais c'est un artiste. C'est un artiste, Jean-Charles. C'est un artiste, vraiment.
Il n'y en a pas d'autres, puis je, en tout cas, bref, fait, c'est ça, tu l'as dit, il a pogné son client, Fait que ça donne des moments qu'on peut s'agacer, puis vraiment de façon différente. Moi, dans ma tête, ça se déroule au ralenti comparativement à lui, là. Mais c'est ça, j'adore faire ça, puis je sais que c'est un segment qui, c'est ça qu'on, heureusement, là, il s'en apprécie, puis tu sais, c'est ça, les codes d'écoute sont quand même bonnes. Fait que, ouais, on trouve ça bien cool.
Marc-André, on a un segment qui s'appelle « 2 minutes dans la vie de », qui est une anecdote reliée au sport. Là, on veut mettre personne dans l'eau chaude parce qu'on sait que parfois, avec notre club Café d'amour, oui, c'est comme ça que je nomme le beat, les gars du beat du Canadien, parce que quand on est à Brossard, comme tu l'as dit, hein, Chaumont est à côté de nous, pas moyen de se concentrer 2 secondes. Mon chum appelle ça le club café. Quand j'allais aux entraînements à Brossard, mon chum disait « Ah, tu t'en vas au club café. » Bref, fait qu'on veut pas mettre le club café dans l'eau chaude. Mais 2 minutes dans la vie de Marc-André Perrault, ça ressemble à quoi? Une anecdote peut-être de sport ou une anecdote de la vie en général?
Ben, écoute, premièrement, il n'y a pas personne qui va avoir un 2 minutes dans ma vie parce que ça... Si ça se déroule au ralenti dans ma tête, là, dans la vie, c'est fou. Là, parce que moi, j'ai un enfant à Gatineau. J'ai un enfant qui est maintenant dans les Laurentides. Je travaille à Montréal. Je voyage. Fait que disons que ça j'ai une vie assez mouvementée. Mais là, tu sais, une anecdote, je veux dire, il faut quand même qu'on rentre un petit peu dans le quotidien parce que sinon, ça va être plate. Là. Mais tu sais, l'anecdote que je me permets toujours de raconter, qui est racontable, c'est au match des étoiles à... Ah, je ne sais pas ce genre d'anecdote que vous voulez. Là, mais... Disons qu'à ce moment-là, on avait... Ben, tu sais, je veux dire... Mais, en fait, sais-tu quoi? On va faire une petite parenthèse. Parce que n'importe qui me demande c'est quoi la ville la plus cool. Pensez-vous pas le Bessic, c'est Nashville. Tu sais, c'est pas là que tu as les paysages bucoliques et tout. Mais disons qu'il y a moyen d'avoir du fun. Là. Fait que là, il y a le match des étoiles à Nashville. Fait que là, tous les journalistes qui couvrent le hockey sont là. Puis disons qu'on avait soif. Fait qu'il faisait chaud, le liquide était froid, frais et délicieux. Fait que, là, le match des étoiles se passe. Puis disons qu'on a été bien accueillis par la Ligue nationale. Hein? Un party là, hein? Comment payer? Gratis, hein? Un party là. Fait que, tu sais, vous voyez le genre un peu. Mais là, le lendemain, je veux dire, il y a un match. Et le lendemain, ben là, il faut rentrer à la maison. Et je me réveille, mettons, là, je me souviens plus des heures exactes, mais mon vol est à 8 heures. Je me réveille à genre 7h15, mais là, je suis en ville, il faut aller à l'aéroport. Fait qu'en tout cas, bing!
Oh boy.
J'arrive au comptoir, la femme a dit, on dit ça, là, tu peux pas te faire rentrer, t'as manqué ton vol. Je dis, non, j'ai pas manqué, j'ai pas de valise, je sais très bien, là, t'as revendu mon vol à quelqu'un d'autre, là, regarde, je ferai pas une semaine, fais juste me mettre sur le prochain vol. Mais là, Nashville-Montréal, c'est pas à tous les heures, tu sais. Fait que là, je pogne un vol le soir, fait que là, moi, j'attends l'aéroport, et là, à chaque heure, il y avait un collègue de différents médias qui arrivait, ah, manqué mon vol, tu sais, puis il était brisé de même. Fait que finalement, il y en a 8 qui sont arrivés pendant la journée, dont des gros noms dans le business, qui avaient manqué le vol. Parce qu'il avait pris une tasse un peu trop au match des étoiles. En tout cas, ça m'a toujours fait rire, ce son-là, parce que j'en voyais arriver, puis là, on fait juste regarder. Mais...
Ah oui! Hein? Mais tu sais, pour de vrai, comme ne vous inquiétez pas de la santé de nos gens, de nos journalistes sur le beat. Puis tu sais, aussi, ne soyez pas comme offusqués, parce que c'est une job qui demande énormément. Tu sais, c'est faire des 16 heures en ligne, mais genre 4 fois dans ta semaine. Puis tu sais, des fois, là, au match des étoiles, quand c'est fini, puis que le lendemain, tu t'en retournes à la maison, tu peux te le permettre, là. Tu sais, des fois, une fois de temps en temps, tu sais, relâcher son fou aussi. Ne vous offusquez pas à la maison, là. C'est important, tu sais, de retrouver les collègues, de retrouver, tu sais, puis en même temps, tu sais, les collègues sur le beat, là, c'est comme ta famille, là. Tu sais, tu les vois pratiquement plus que ta famille dans une année, fait que, tu sais, faut en profiter, m'amener.
Ben, regarde, il y a 41 matchs dans l'année. Tu sais, mettons, je vais mettre les 2 mois de l'été, là, on les tasse. Là. Mais fait que là, sur 10 mois, sans compter les matchs hors concours et séries éliminatoires, tu as 41 matchs sur la route. Fait que give or take, c'est à peu près 90 nuits à l'hôtel. Là, tu ajoutes le match des étoiles, tu ajoutes les séries éliminatoires. Avant la pandémie, je pense que j'ai dormi 156 nuits à l'hôtel. Ben, je veux dire, sur 150 d'entre elles, c'est bon, déjeuner, va courir, entraînement, pratique, match. Sauf que tu me vois 5 que je vais prendre un petit verre à Nashville. Là, tu sais? Fait que c'est un peu ça, mais pour vrai,
ben oui.
On s'entend, là, j'ai vieilli aussi. Là,
give my man a drink.
C'est sûr, ben, tu sais, je veux pas mourir asséché. Mais non, tu sais, au début des premières années, c'était un petit peu plus. Bon, j'étais plus jeune, j'avais rien qu'un enfant. C'était plus, fait, mais là, à cette heure, là, je veux dire. Toujours en niaisant, je m'en vais sur la route, je m'en vais en congé, parce que quand j'arrive, j'ai ici, puis là, je vais à Gatineau, tout ça, fait que, bref. Mais c'est ça, tu sais, on a vraiment du fun, tu le dis, on est une famille, puis, je veux dire, je suis allé au mariage à Luc, je joue au golf, ben, j'ai joué au golf avec Chantal, on va sûrement le refaire, Chaumont, c'est mon grand chum, mais, tu sais, on est une famille, puis à un moment donné, il faut vivre, tu sais, fait que, mais ne vous offusquez pas.
J'en ai une petite dernière pour toi, Marc-André, avant de laisser aller. Oui, déjà, ça passe vite. On a beaucoup parlé de toi, puis de ta personnalité en nombre, de commenter. Mais j'en ai une pour toi sur ton opinion, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans le giron du Canadien cette année. Puis, évidemment, une des choses qui est arrivée dans les dernières semaines, c'est le dossier Jonathan Drouin qui est présentement en pause. Puis ça a fait couler beaucoup d'encre. Puis moi, personnellement, depuis que c'est arrivé, je suis 100% dans le livre Joe Drouin Alone. C'est bien correct. Je veux pas du tout parler de Joe qui vit ce qu'il a à vivre. Je respecte ça énormément. Mais ça a beaucoup fait jaser, surtout le jour du point de presse, la façon dont ça s'est déroulé. Toi, t'es là-dedans, ça fait quelques années maintenant. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec des amis qui disaient beaucoup de choses. Puis bon, des fois, moi, j'essaie de pas trop le laisser paraître. Mais bon, Frank Lévesque, l'autre fois, qui m'a traité de grognon, ben, des fois, je suis grognon puis je pogne les nerfs vite quand les gens essaient de critiquer certaines choses qu'ils connaissent pas nécessairement. Comment t'as vécu ça? Puis comment tu trouves la présence médiatique à Montréal? Parce que moi, bien personnellement, j'ai pas entendu aucune question déplacée au point de presse sur Jonathan Drouin. Il y en a-tu trop? Peut-être, si vous avez droit à votre opinion là-dessus, mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que la relation entre les journalistes sur le terrain et les joueurs, vous la voyez pas, mais elle est super respectueuse. Tu sais, toi, c'est pas toi qui va en onde, puis qui donne son opinion pour critiquer joueur X, joueur Y, joueur Z. C'est pas Chantal non plus qui fait ça. C'est le rôle plus d'animateur puis d'autres chroniqueurs qui sont pas nécessairement dans le vestiaire, mais somme toute, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais même si il n'y a plus la proximité qu'il y a déjà eu à une autre époque, la relation est toujours très respectueuse entre les joueurs, les entraîneurs puis les journalistes à Montréal. Là.
Règle générale, oui. Tu sais, c'est toujours du give and take. T'sais, à un moment donné, cette saison, évidemment, j'étais le seul dans les estrades, puis Price embarque sur la glace, puis pète un plomb, pète un corps, puis pète son hockey sur la barre horizontale. Puis là, je suis le seul, là. Là, il sait que je suis là, il me regarde, tu sais, je comprends, genre, ouais, mon calvaire, il fallait pas mettre ça, tu sais, parce que j'avais la shot, tu sais, je l'ai pas mis. Fait que ça, c'est niaiseux, mais ça fait juste comme contribuer un petit peu à, tu sais, justement, faut qu'il y ait un respect, puis faut pas que tu veux jamais faire mal à quelqu'un. Moi, c'est même que je fonctionne, je sais pas si je peux pas parler pour tout le monde, mais oui, règle générale, il y a une bonne relation, mais moi, ça me fait rire quand j'entends, il y en a trop. C'est pas nous autres qui décident qu'il y en a trop. C'est pas nos boss qui décident qu'il y en a trop. C'est la demande. Fait que, tu sais, là, arrêtez de poser des questions. Hey, on fait 4 heures de show par jour pour parler du Canadien. Vous écoutez parce que vous voulez qu'on parle du Canadien. Faut bien m'emmener qu'on pose des questions là parce que si on te fait juste te montrer les images d'entraînement avec les trios, c'est pas le fun, là. Fait que, tu sais, faut être conséquent aussi dans les critiques là. Tu sais, la situation avec Joe Drouin, je pense vraiment pas que c'est les médias. Je veux dire, faut pas commencer à chercher les coupables nécessairement, mais tu sais, n'importe qui regarde les réseaux sociaux, là, c'est violent, calvasse des fois. Là. T'sais, nous autres, on l'a vécu, je pense aussi là, à TVA, puis je me disais, man, change de poste. Comme, c'est qui dans la vie qui est pas content d'avoir le choix? C'est pour vrai. C'est qui s'arrête et qui se dit bon, moi aujourd'hui, là, je veux qu'on m'impose quelque chose pour faire le choix. Hey, ben, change de poste. Si tu l'aimes pas, Joe Drouin, ben, regarde-le pas. Je sais pas, tu sais, c'est ça, des fois que tu comprends pas l'acharnement. Puis, pour vrai, puis je me souviens plus c'est quoi les chiffres, là, mais c'est vraiment une minorité là, des tatas sur Twitter. C'est une grande minorité, mais tu sais, comme on, ça a déjà été dit, là, mais tu donnes une voix aux tatas, la même voix que tu donnes à un prix Nobel là, sur les médias sociaux. Fait que des fois, ça donne des affaires de même. Puis, moi, je suis chanceux parce que, tu sais, puis là, évidemment, plus t'as de followers, plus t'as de danger de te faire critiquer, mais tu sais, des fois, c'est genre, je sais pas, moi, une image de Bitcoin, puis le gars, je l'appelle Joe Blow 64, puis il se met à t'insulter. Je vois-tu vraiment comme. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'as 500 Joe Blow 64 avec l'image de Bitcoin qui dit que t'es un pas bon, ben, à un moment donné, tout de même, tu sais, c'est pas bon ou quoi. Fait qu'en tout cas, tu sais, mais c'est tellement. Tu sais, puis c'est beau Twitter, mettons. T'sais, pour un partisan d'hockey cette année, là, check Marc-André, puis bon, lui, là, il a hâte à la game à soir, puis bon, Marc-André est à Vancouver, il vient de le couper trio. Ah, c'est cool, tu vas pouvoir en parler avec les gars au bureau, ou la fille qui dit, ah, je vais en parler avec les. T'sais, ça, c'est le fun, mais toute la marque que ces médias sociaux, moi, je pense que c'est même plus ça qui est. Mais là, c'est pas. J'allais dire, c'est ça qui est responsable de. Disons qu'on enlève Joe, là, Joe Drouin de l'équation pour ça, mais ça je pense que ça contribue à. Hey, des choses, même envers des collègues. Là. J'ai vu des affaires sur Twitter, c'est du bullying. Là. Get a life. Là. Fait que,
ben, c'est parce qu'on oublie souvent que derrière ces écrans-là se cachent des êtres humains. Puis qu'on a tous une vie personnelle en dehors du travail. Puis la journée où est-ce que tu passes une moins bonne journée, ça fesse encore plus que ça aurait fessé peut-être dans une meilleure journée. Puis je pense que les mots qu'on utilise sont tellement durs. Et si Joe Drouin lisait ce qui se disait sur lui, je comprends que ça s'est moins bien passé par la suite parce que c'est un cercle infernal. Plus tu t'enlises, tu lis les réseaux sociaux, plus c'est difficile de faire la part des choses puis de se dire, ben là, tu sais, OK, là, calme-toi, normal, non, ça va être correct. Tu sais, c'est plus difficile de faire la part des choses quand toi, personnellement, ça va moins bien, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre, puis tu sais, tout ce que je souhaite, puis tu sais, je le dis souvent, puis il y a beaucoup de gens qui me critiquent en disant, tu es tout le temps en train de défendre Joe Drouin, non, non. Parce que je trouve que les critiques à son endroit ne sont pas justes. On s'attaque à la personne. C'est un athlète, c'est un joueur de hockey, mais c'est un être humain d'abord et avant tout. Et on l'oublie souvent. Et c'est pour ça, parce que Joe, moi personnellement, l'expérience que j'ai eue avec lui dans le vestiaire, puis là, je l'appelle Joe comme si c'était mon grand chum, là, non, mais tu sais, dans le vestiaire, il a toujours été respectueux, il a toujours été là pour répondre à mes questions. Il a toujours, même si c'était des questions plus difficiles parce qu'il connaissait des léthargies, prenait le temps d'expliquer puis de dire ben moi non plus je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Puis sincèrement, je crois que s'il y a quelqu'un qui veut que ça fonctionne, c'est Jonathan Drouin. Je sens pas de désengagement tant que ça de sa part, je sens plus, puis je pense que quand tu as joué, tu sais, moi j'ai joué à la ringuette, quand ça fonctionne pas, des fois tu l'as pas la solution. Ça va juste être d'en mettre un dedans puis après ça va bien aller. Mais il faut que tu en mettes un dedans, puis tu sais pas comment tu vas faire, tu sais, que tu vas t'y prendre pour mettre ce premier but-là dedans. Fait que je pense que Joe Drouin, c'est pas un désengagement nécessairement de sa part, puis c'est pour ça que je suis encline à pas le défendre, mais tu sais, lui laisser une chance.
C'est une bonne chose, là. Les gars puis les coachs, là, ils savent là, ce qui se passe sur les médias sociaux. Ils ont beau nous dire, je regarde pas ça, c'est pas vrai. Ils regardent, il y en a qui regardent tout ce qui se dit sur un autre. Mais tu sais, là, imaginez-vous, là, mettons, on est journaliste, puis tu reçois sur Twitter, là, après chaque intervention, là, ouf, celle-là, c'était pas ta meilleure, hein, et on dirait que ça va pas bien dans, tu sais, là, un médecin, ouf, ta première opération, c'était pas ta meilleure, là, ça va pas bien tes affaires, hein, depuis une semaine. À un moment donné, là, n'importe quel être humain, là, dans sa tête, ça va commencer à spinner, ça. Tu sais, ça vient avec, c'est pas évident, sauf que. C'est ça, à un moment donné, là, prenons notre gage légal. Mais tu sais, le partisan, le et la du Canadien de Montréal est un consommateur très, quand même très sévère, puis c'est bien, là, tu sais, ça donne des jobs à ben du monde, puis ça donc c'est positif, sauf que, c'est ça, il y a encore cette fameuse minorité qui fait brailler puis qui fait chier le groupe.
Oui, c'est ça. Je pense que il y a une façon de bien critiquer et de bien émettre des opinions sans attaquer personnellement les gens qu'on vise par nos commentaires. Peut-être, tu sais, d'avoir des commentaires constructifs, c'est toujours bon. C'est de la façon que tu le dis. T'sais, moi, c'est vraiment mon adage dans la vie. T'sais, tout peut se dire. Il y a juste une façon de le dire. Mais bref, Marc-André Perrault, ce fut... Mon Dieu, un bonheur que tu slides dans nos DMs. Quel privilège! Quel privilège d'avoir un gars comme toi qui slide dans nos DMs aujourd'hui. On va te souhaiter la meilleure des chances. Là, même pas de chance. Là, tu vas juste continuer à t'amuser pour la fin de la saison. Et on va te suivre attentivement sur les ondes de TVA Sports pour la première ronde des séries qui va s'amorcer très bientôt. Puis j'ai très, très hâte de te retrouver au Club Café, mon ami.
Ben écoute, n'importe quand, c'était un plaisir. Et moi, je vais finir avec mon adage qui est « T'as droit au bonheur ». Fait que, oubliez jamais que tout le monde a droit au bonheur. Puis n'importe quand. Mais là, tu vois, tu sais, quand tu dis le sérum de l'imposteur, je sais même pas si c'était bon, si c'était intéressant. Fait que, en tout cas, vous verrez. Puis, vous
me moi, je te confirme que ça l'était.
C'était parfait. Alors,
Marc-André, merci tellement d'être. All right. Merci, Marc. À la prochaine. Quel plaisir de parler à Marc-André Perrault, DAF. Calme, frais, collecté. Ben en fait, c'est comme ça que lui m'avait décrit, mais moi, je lui renvoie l'appareil. Il est définitivement tout aussi calme, beaucoup plus frais et tout aussi collecté. DAF, le segment dans nos DM est de retour. Et je vais même pas commencer avec un vrai DM de mon côté. Je dois commencer avec une conversation de vive voix que j'ai eue, qui est avec ma mère, qui voulait absolument que je te demande. C'est quel âge, ça, vieux?
Bon, ça, comme, ça part. Là, j'ai l'impression, hey, mon Dieu, il faut que je fasse attention. Vieux. Pour moi, vieux, c'est 27 ans. Je me sens vieille déjà. Non, non, non. Mais tu sais, l'âge n'est qu'un chiffre. C'est dans la mentalité. T'es vieux quand tu commences à ta mentalité penser que t'es vieux puis de dire que ah, oh, ça, c'est trop vieux. Je suis trop vieux pour ça. Non, non, t'es jamais trop vieux pour quoi que ce soit. Moi, je veux qu'à 82 ans, je trouve encore que des gifs, puis que des, t'sais, que tout ça soit encore extraordinaire et pas comme notre ami Richard Labbé qui se braque devant ce qu'il appelle des Pokémon Bowl, entre autres.
Salutations à Richard, qui, je pense, va faire une apparition par semaine. Donc, j'espère que ma mère est rassurée, mais ça a beaucoup fait jaser nos commentaires, nos jokes de boomer. Sachez que c'est beaucoup dirigé à des amis qu'on aime d'amour, parce qu'il y a JC Bertrand de RDS, que je salue, qui est un chum, qui m'a dit en commentaire, justement, en DM, un vrai cette fois-ci, solide premier podcast, vos commentaires de boomer avec Bonhomme qui rit. Et salutations aussi à Baba Bayarjon, que j'aime d'amour, qui a écouté le premier épisode « Café à la main » et qui, je pense, l'a recraché parce qu'il l'écoutait sur YouTube pour pouvoir voir visuellement, avec ses yeux vus, de quoi ça avait l'air, puis que dès les premiers instants, il se fait traiter de « boomer ». Je m'excuse, Baba, je t'aime.
Pour vrai, tu sais, c'est ça. Tout ça est un show. Les chums, gardez ça en tête. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie que d'avoir des amis de 40 ans et plus. J'adore nos soirées où est-ce qu'on est avec Chaumono, qui a 40 ans, que je salue, Jean-François Chaumont, Jean-Charles Lajoie, qui est un de mes amis, mais qui a l'âge de mes parents, mais pour de vrai, ce sont vraiment mes amis. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté aussi, tu sais, tout ce mélange-là de, tu sais, c'est plus une question d'âge ou de génération rendue là, c'est juste des années croches, tu sais, qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Puis en tout cas, je trouve ça vraiment le fun. Moi, dans la vie, là, j'ai toujours chillé avec des adultes et j'adore avoir des amis de 40 ans et plus. J'adore vraiment ça.
T'as donc une vieille âme. Je te découvre une vieille âme tout d'un coup. C'est sensationnel.
Au vrai, c'est vraiment incroyable. Dans la vie, là, quand j'étais plus jeune, anecdote, j'adorais chiller avec des adultes. J'ai une sœur 5 ans plus vieille. Je me suis toujours tenue avec des gens plus vieux. Patlus a 8 ans de plus que moi. Ses amis, les blondes de ses amis, c'est devenu mes amis, mais c'est des filles qui ont 32, 33, 34 ans. Bref, j'adore ça.
Vous nous envoyez beaucoup de questions, tant en commentaire qu'en DM, tellement que je pense, Daph, que pendant la semaine, on va devoir faire un court épisode de 15 minutes pour répondre à toutes les questions. Bon, je peux pas croire que je viens de dire ça, là, si bol, parce que vraiment, on n'a vraiment pas le temps pour ce genre de segment de plus tous les deux. Mais on vous promet qu'on va répondre à un peu plus de questions et de témoignages lors du prochain épisode, parce que malheureusement, ben, le temps file, même si c'est un podcast, puis théoriquement, on a tout le temps au monde. Dans nos vies, on n'a pas tout le temps au monde. Je veux juste dire à Frédéric Ouellet que si KK, Caulfield et Suzuki étaient des dresseurs de Pokémon, quel serait leur starter? Définitivement, Caulfield serait Charmander parce qu'il amène le feu dans la lucarne.
Oui.
Nick Suzuki serait le Bulbasaur et il enverrait des feuilles à tous ses amis. Et KK est définitivement le Squirtle qui devient ensuite Blastoise parce que même s'il ne l'utilise pas assez à mon goût, eh bien le tir sur réception de KK, si un jour il apprend à l'utiliser pour de vrai, ça va être comme les deux canons de Blastoise sur ses épaules.
Hey, pour de vrai, je suis tellement contente parce que pour Coffee, on en avait le même. On ne s'en est même pas parlé, Max, et on avait le même. Je trouve ça extraordinaire. Puis, j'aimerais juste faire un shout-out à tout le monde, justement, qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des idées de sujets. Voyons, vous êtes impliqués. J'adore ça. Vous amenez de l'eau au moulin. Puis c'est sûr qu'on va prendre le temps un peu plus là, dans les prochains épisodes pour peut-être répondre à ces questions-là ou à amener des sujets que vous nous avez suggérés. Et en terminant, Max, je voudrais juste faire un gros shout-out à Catherine Harvey-Pinard, qui a rejoint les rangs de la presse, je voulais le dire en début d'émission, parce que c'est le fun d'avoir une fille de plus parmi nous. C'est le fun de la presse d'avoir choisi de prendre une femme. Je pense que la beauté de notre métier se va dans la diversité qu'on amène et je lui souhaite pas bonne chance. Je lui souhaite de briller de mille feux. Catherine, si tu entends ce message-là, vraiment, tu sais que je suis derrière toi à 100% et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve sur le terrain pour couvrir du sport.
Je ne saurais mieux dire. Merci tout le monde de nous avoir écouté à nouveau ce deuxième épisode de Daph et Max. Écrivez-nous, suivez-nous sur les médias sociaux @MaxVanout sur Twitter, @Vanoulicious sur Instagram. Dans le cas de Daph, ben elle, c'est beaucoup plus simple. C'est @DaphneMalbeuf tant sur Twitter que sur Instagram. Et si vous avez commentaires, questions, témoignage, anecdote, tout ce que vous voulez, daphetmax@gmail.com. Et encore une fois, un énorme merci à notre cœur, à notre amour, Marc-André Perrault qui est venu slider dans nos DM. Je pense que c'était rafraîchissant. Vous l'aimez, on l'aime et on est heureux d'avoir jasé avec lui. Daph, à la semaine prochaine et on continue à se parler, d'autant en don, de toute façon.
Stay gold, les chums, stay gold.